Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans le réveil culturel, tous les matins tôt à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne et l'abonnement au podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. Aujourd'hui je vous recommande une exposition, surtout si vous avez des enfants, mais pas forcément d'ailleurs. Il s'agit de Monstres, Manga et Murakami, c'est au Musée en Herbe, une exposition qui célèbre la culture pop japonaise, ses mangas célèbres, ses yokai ancestraux et ses robots futuristes, mais aussi c'est une expo qui questionne le rapport à la nature et à la mort dans la culture traditionnelle japonaise. Et on peut découvrir dans cette expo une ludique et très colorée relecture de cette culture pop à travers les œuvres de l'artiste contemporain japonais le plus célèbre au monde, Takashi Murakami. La commissaire de l'exposition, Sylvie Girardet, est notre invitée ce matin.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
C'est jusqu'au 22 septembre cette exposition. Bonjour Sylvie Girardet.
Bonjour.
Vous êtes aussi d'ailleurs la directrice du Musée en Herbe à Paris qui accueille donc cette exposition Monstres, Manga et Murakami. Murakami, bien sûr, ce n'est pas l'écrivain mondialement lu, mais un artiste pop japonais. On l'appelle même le Andy Warhol nippon.
Oui, absolument. Nippon, c'est important parce qu'effectivement, Takashi Murakami, qui est un personnage mythique, a été assez longtemps fasciné par Andy Warhol. Il a créé, comme Andy Warhol, sa propre factory, qui s'appelle la Kaikai Kiki. Mais maintenant, il revendique de plus en plus sa personnalité, sa culture japonaise. Et donc,
on applique un peu les mêmes méthodes qu'Andy Warhol, dans le sens où il est dans la répétition industrielle de ses œuvres.
Voilà, absolument. Il est un petit peu moins qu'Andy Warhol, mais c'est vrai qu'il a des fleurs qui multiplient, ces fameuses fleurs, ces marguerites souriantes. Donc ça, ça a été très inspiré par Andy Warhol. Il a été fasciné par justement le côté un peu commercial voulu, souhaité d'Andy Warhol. Donc, il crée également des produits dérivés, des ballons de foot. Mais contrairement à Andy Warhol, ses œuvres sont également des œuvres uniques. Il a poussé beaucoup moins loin, disons, le procédé qu'Andy Warhol, pour se retrouver sa culture. C'est un homme qui a fait des études d'histoire de l'art japonais classique, les beaux-arts classiques. Donc il est moins dans, bien que malgré ses œuvres valent très cher maintenant, il est moins dans la culture de l'argent.
On découvre donc ses œuvres, mais ses œuvres, c'est pour aussi répondre à toute la culture pop japonaise qui a envahi le monde. C'est-à-dire les mangas, bien sûr, les robots, les monstres, les estampes, bien sûr. C'est-à-dire, il y a les deux, je parle de la culture moderne, mais il y a aussi la culture ancestrale japonaise qui est très présente dans cette exposition.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert, parce que je connaissais très mal la culture japonaise, j'adore Murakami depuis nombreuses années. J'avais envie de faire une exposition avec lui, sur lui. Et c'est un peu compliqué d'abord parce qu'il habite loin, parce qu'il a des projets gigantesques et qu'une petite exposition, quand même, soyons modestes, au Musée en Herbe pour les enfants, ça n'a pas été sa priorité. Et c'est vrai qu'en me plongeant dans l'œuvre de Takashi Murakami, je me suis aperçue d'abord, il le prône, il le dit, il avance, c'est un fan de manga et de dessins animés. Et donc, en découvrant les mangas, parce que j'en avais lu, mais bon, un petit peu de loin et sans rentrer vraiment, je me suis aperçue que les mangas sont très appuyés sur la culture traditionnelle japonaise. Enfin, beaucoup de mangas, pas tous, parce qu'il y a une multitude de mangas. Et c'est vrai que quand on part de la culture pop de Takashi Murakami, finalement, on retombe dans les mangas et en lisant les mangas, on retrouve la culture traditionnelle japonaise.
Tezuka est très présent. Oui. Et comment qu'il est présent, ne serait-ce qu'à travers son personnage d'Astro Boy, donc ce robot, le petit robot, créé dès la fin des années 50.
Oui, absolument. Alors Astro Boy, c'est le premier héros robot, qui est apparu effectivement dans la bande dessinée, dans le manga. C'est un mi-petit garçon, mi-robot. Il a une histoire très triste, Astro Boy. Parce que son père, celui qui l'a construit, avait perdu un petit garçon. et a voulu construire donc un robot à son image. Et puis tout d'un coup, il s'est aperçu que ce robot ne grandissait pas. Donc il l'a vendu à un très cruel directeur de cirque, donc qui a fait beaucoup souffrir Astro Boy jusqu'à ce qu'il se retrouve une famille adoptive très gentille. Et le Astro Boy, il est doué d'une force herculéenne et il détruit tous les méchants. Son rôle sur Terre, c'est de détruire les méchants.
Alors c'est quand même un des premiers mangas avec un robot comme personnage principal, Astro Boy, un peu au centre de cette exposition qui s'adresse aux enfants mais aussi aux adultes. D'ailleurs, je vais reprendre votre formule, Sylvie Girardet, vous dites que c'est une exposition pour les 3 à 103 ans.
Oui, absolument. C'est la philosophie du musée en herbe, c'est de s'adresser aux tout-petits, de prouver qu'une œuvre d'art peut être accessible aux tout-petits comme aux grands, aux personnes qui n'ont pas de bagage culturel, comme les enfants ou d'autres pour différentes raisons, comme aux érudits.
Par exemple, quand vous exposez quelques planches, quelques couvertures d'Astro Boy, d'Osamu Tezuka, vous en profitez dans cette exposition pour parler, bien sûr, de l'histoire vraie d'Astro Boy, vous venez de la résumer d'une manière parfaite, Sylvie Girardet, mais aussi pour parler des robots aujourd'hui.
Oui, absolument. Les robots, c'est vraiment très ancré dans la culture japonaise. Ils retrouvent, effectivement, je parle également des hôtels, de quelques hôtels au Japon où on est accueilli que par des robots sous forme de dinosaures, où l'hôtesse est une femme plus vraie que nature qui vous emmène, les dinosaures vous emmènent dans les chambres. Et Takashi Murakami, il a créé quand même un personnage qui est un petit peu le personnage phare de cette exposition, qui est Inoshi. Et Inoshi n'a jamais été présenté en France. C'est la première fois qu'il vient en France. Et Inoshi, un peu à la façon d'Astro Boy, c'est un mi-petit garçon, mi-robot, un personnage étrange. Il ressemble un petit peu à E.T., il a quand même les mains palmées, il a un corps à moitié petit garçon, à moitié métallique. Et cet Inoshi, il arrive sur Terre et il tombe amoureux et il découvre les merveilles de la Terre. Donc c'est quand même très optimiste. Il va à l'école, il s'intègre. Et il tombe amoureux d'une petite fille, il trouve les cerisiers en fleurs magnifiques.
Il a une drôle de tête avec un crâne énorme, des yeux très éloignés l'un de l'autre, son nez, sa bouche minuscule, tout ça on peut le voir dans des petits films, mais c'est la première fois qu'on les voit ici en France.
Oui, tout l'ensemble, c'est une œuvre, une installation complète de Takashi Murakami qui nous a été prêtée par la collection Pinault. Et c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il y a la sculpture d'Inoshi, il y a le film où Murakami le met en scène, le fait vivre, et puis des grands posters, et voilà, ça fait un ensemble. Et c'est vrai que l'exposition dure depuis un mois ou deux, et on commence à y croire, à ce petit garçon robot qui arrive sur Terre et qui vit, il a une démarche rigolote. Voilà, maintenant il fait partie du musée.
Comment a été conçue cette exposition, Sylvie Girardet? Parce qu'on a parlé d'Astro Boy, de Goldorak, de toute cette culture pop, mais Hokusai est tout aussi présent. Hein, c'est-à-dire la fameuse grande vague d'Hokusai est présente. Il y a des sujets un peu plus sérieux ou plus dramatiques, puisque le Japon c'est aussi un autre rapport à la mort, une autre vie avec la nature, et comment accepter les cataclysmes et tout ça. Ça, comment le raconter aux enfants?
C'est un petit peu un challenge, mais finalement ça marche très bien. Alors à chaque fois, nous, chaque première visite d'enfant, on est toujours très très inquiet et attentif, parce que on a beau se mettre à la place des enfants, c'est la première démarche, hein, c'est d'essayer de se rétrécir et de se mettre à la place des enfants, et en même temps sans infantiliser les adultes qui vont également venir nous voir. Donc il y a vraiment une démarche et de se mettre, essayer d'entrer dans la tête d'un enfant et essayer d'entrer dans la tête d'un artiste, ce qui est absolument impossible d'ailleurs, mais d'aller au plus près. Et c'est vrai que Takashi Murakami, ça n'est pas que le pop artiste avec justement les petites fleurs gentilles, les robots intrigants.
Même si c'est très beau, hein, les petites fleurs gentilles,
oui,
colorées.
Oui, c'est très beau,
hein,
mais c'est vrai, comme vous le dites, que c'est beaucoup plus facile d'accès pour des enfants. Ensuite, il y a les monstres. Alors les monstres, c'est vraiment la culture japonaise profonde que le mangaka, notamment Mizuki, a fait des recherches très approfondies. Il est allé dans toutes les régions du Japon retrouver ces monstres qui font partie, qui peuvent sortir d'un fer à repasser, qui peuvent se trouver au coin d'une rue.
Surtout que certains d'entre eux sont malveillants. Oh là Mais là. Pas tous.
Non, pas tous, c'est ça qui est compliqué. Puis selon les situations, selon les régions. Et donc Mizuki a fait leur portrait, il a fait un dictionnaire des yokai, les monstres qui s'appellent des yokai. Et toute l'œuvre de Takashi Murakami est aussi très inspirée par ces monstres.
Édité en France par Cornelius d'ailleurs, et ce sont ces planches que vous exposez. Mais il y a aussi cette idée d'inviter les gens à écouter des légendes d'ailleurs, les légendes sur les fantômes au Japon par exemple.
Oui, et puis alors il y a cette chasse aux monstres. D'ailleurs, les petits visiteurs sont des chasseurs de monstres hein, pendant toute l'exposition, et ils arrivent dans la dernière partie qui parle effectivement davantage de la mort, puisque le Japon est un pays quand même qui a subi et qui subit toujours beaucoup de catastrophes entre la guerre, la bombe atomique, les tremblements de terre, le tsunami. Donc il y a un rapport à la mort, comme vous le dites, très présent. Les enfants arrivent armés parce qu'ils ont déjà chassé les monstres dans l'exposition, et ils ont leur petit... Et on s'aperçoit que Murakami et les artistes de la Kaikai Kiki ont finalement une vision très optimiste. Disons qu'il y a vraiment une résilience face à la mort, parce que bon, il y a les tsunamis, il y a eu les catastrophes, il y a des tremblements de terre, et puis ils renaissent hein, toujours après la bombe atomique. Et dans les œuvres, donc déjà, il y a la mort, c'est pas la fin de tout quoi pour eux, c'est une période, un passage. Et c'est vrai que dans les œuvres qu'on expose, bon, il y a un cimetière qui est plutôt rigolo, avec une petite fille qui tombe à vélo, mais qui est pas morte. Il y a des petits monstres qui disent elle est pas morte, elle est pas morte. Mais dans ce cimetière, c'est plein de petits démons rigolos. Il y a un fantôme qui a les cheveux de toutes les couleurs, qui a trois yeux, qui avale toutes les mauvaises choses, et puis qui recrache des abeilles qui vont faire renaître la nature. Et quand on regarde de près ce fantôme, on s'aperçoit qu'elle a un bobo au coude avec un pansement Hello Kitty. Donc il y a toujours cette forme d'humour et d'optimisme. Et la dernière œuvre de l'exposition, c'est une œuvre de Takashi Murakami. Depuis le tsunami, ils ont quand même été très 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 frappés. Et Takashi Murakami, donc, était effectivement plus un pop artiste, bien que très imprégné de culture japonaise. Il se tourne depuis le tsunami vers le bouddhisme, et ses œuvres donc se rapprochent beaucoup. La dernière œuvre, c'est un entassement de crâne, donc a priori c'est pas très rigolo.
À la manière mexicaine d'ailleurs, c'est
voilà. Il y a beaucoup de crânes, et avec une forme qui peut rappeler la vague du tsunami, mais au-dessus il y a un lion qui est quand même une tête impayable. Et ce lion, il a une pivoine sur la tête qui lui écrase sa crinière. La pivoine, c'est le symbole pareil de la renaissance, du printemps. Et puis en plus, il y a plein de petits lionceaux qui l'embêtent sur son dos, qui lui tirent sa crinière. Donc il y a toujours cette ambivalence entre la vie et la mort. Mais d'ailleurs, Takashi Murakami, c'est un personnage très amusant. Il adore se déguiser. Enfin, on ne sait pas trop qui il est, hein. Il peut être très sérieux et puis tout d'un coup partir. Là, il est venu visiter le musée en herbe avant d'accepter. Dans une précédente exposition, il est arrivé très sérieux, il disait rien. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à faire des photos, à jouer avec les enfants. C'est quelqu'un de, moi je trouve, très attachant, très surprenant. Et avant d'accepter de faire cette exposition, enfin, moi, je l'ai rencontré, moi, j'étais très impressionnée, parce que pour moi, c'est vraiment un personnage mythique. C'était tôt le matin, il disait rien, on a bu le café, il a regardé des photos, il disait rien. Et puis, tout d'un coup, il m'a demandé, justement, quand vous faites une exposition pour les enfants, est-ce que vous pensez davantage aux enfants ou aux artistes ? Et je lui ai dit ce qui est vrai, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bah, c'est les deux, c'est arriver à faire cette connexion et d'essayer d'entrer dans votre personnalité. C'est surtout vous, je lui ai dit, c'est très 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 difficile. Et tout d'un coup, il m'a dit, votre démarche me plaît beaucoup, c'est d'accord. Il était très débordé, c'était la Fashion Week. Il n'avait pas un instant, je viens au musée, dans une heure je serai au musée. Et puis il est venu.
Takashi Murakami, donc cet artiste contemporain qui est vraiment central dans cette exposition destinée aux enfants, mais qui ne déplaît pas aux adultes, surtout ceux qui ont gardé en eux l'enfant qu'ils ont été face aux dessins animés, par exemple, entre autres, ou manga japonais. C'est à Paris, au musée en herbe, monstres, manga et Murakami. Vous restez avec nous, Sylvie Girardet, j'ai deux ou trois autres questions à vous poser.
Le réveil culturel. Toufi Kakem.
हाथों को तेरे थाम कर रास्ता लगा मैं ढूंढने अपना भी घर कहाँ है तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ तेरी बाहों में खो सा गया हूँ जब से तुमसे मिला हूँ तेरी यादों में खो सा गया हूँ है दिल में यहाँ हर गम मिट जाता है तेरी एक अदा पे सब कुछ मिल जाता है अगर तू मुस्कुराते तुमसे मिला हूँ तेरी यादों में खो सा गया हूँ वहाँ है दिल में यहाँ हर गम मिट जाता है तेरी एक अदा पे सब कुछ मिल जाता है अगर तू मुस्कुरा दे मुझको नशा जो चढ़ा है मंजिल नहीं जो जाना वहां है तुझे जहां मैं हूं वहां तुझे जहां मैं हूं वहां तुझे जहां मैं हूं
Le réveil culturel avec Sylvie Girardet, qui est la directrice du musée en herbe, musée qui accueille en ce moment et jusqu'au 22 septembre l'exposition Monstres, Manga et Murakami. Sylvie Girardet, vous avez écrit plusieurs livres pour les enfants qui allient la culture, les savoirs, à l'humour, très souvent à l'interactivité. D'ailleurs, c'est très présent dans cette exposition, l'interactivité. Les enfants ne sont pas là juste pour découvrir des pièces, des photos, des planches de bande dessinée, ou bien les œuvres de ce grand artiste qui est Murakami. Non, puisque il y a aussi quelques idées pour les faire participer, pour par exemple mieux leur faire connaître ce personnage de l'artiste Murakami qui est Mister Dob, D-O-B.
D-O-B, oui. Alors Mister Dob, oui, effectivement, les enfants dans l'exposition sont toujours acteurs. Ça, c'est un principe de découverte, parce que sinon, même si les médiatrices sont excellentes, voilà, une heure dans une exposition, c'est encore à nouveau la classe. Donc ils sont acteurs, donc déjà ils partent, eux, avec, ils sont des chasseurs de monstres, ils sont Kitaro, le petit chasseur de monstres créé par Mizuki. Et quand ils arrivent dans la salle des monstres, ils sont d'abord confrontés aux monstres traditionnels japonais dont on a parlé tout à l'heure, dont un qui s'appelle Yakume, qui a 100 yeux, et qui a tellement d'yeux d'ailleurs qu'il ne peut pas vivre dans la journée parce qu'il est totalement aveuglé. Donc il ne vit que la nuit. Et si on raconte un mensonge ou on fait une grosse bêtise, on dit qu'il y a des yeux qui sortent de ce monstre et qui vont vous suivre tout le temps. Donc quand même, ça freine. Et donc ce monstre est très très présent dans la culture japonaise et Takashi Murakami s'en est beaucoup emparé. Et notamment pour son Mr. Dobb. Mr. Dobb, c'est un petit peu le, ouais, c'est l'alter ego de Murakami. Donc, il est très ambivalent. Il peut être adorable, comme tout d'un coup avoir plein de...
Il a un sourire carnassier, hein.
Ah oui, les deux. Il peut être très, très gentil. Et tout d'un coup, il a des yeux qui lui poussent partout. Il a des dents pointues. Et très souvent, sous la même sculpture, quand on la regarde de face ou de dos, il y a son côté gentil et son côté beaucoup plus inquiétant. Et Mr. Dobb, donc il y a toujours un D, un O, un B, quand on regarde, il peut prendre plusieurs formes. Donc on le retrouve dans la dernière salle sous la forme d'une pieuvre méduse. Il est là partout. Et voilà, c'est l'alter ego de Takashi Murakami.
Et, c'est l'artiste qui a ramené, c'est Takashi Murakami qui a ramené ces objets exposés.
Non, ceux-là, oui, ils proviennent de collectionneurs à Paris. C'est plus simple que de faire venir du Japon. Mais il y a la galerie Perrotin, qui est la galerie à Paris de Takashi Murakami, qui nous a prêté aussi des œuvres.
Et quelques pièces.
Pièces, et qui fait le lien parce qu'il est loin, ils ont un décalage horaire. Donc, quand même, ils s'intéressent énormément à l'exposition, donc très souvent il nous demande combien de visiteurs, est-ce qu'il y en a eu plus que pour les précédentes. Il est vraiment impliqué dans l'exposition. Et ce monsieur Dobb, donc, il suit partout Takashi Murakami de toute façon. Et puis il y a deux autres personnages emblématiques aussi qui sont Kaikai et Kiki, qui ont donné le nom à sa factory. Donc Kaikai, il est blanc, il est gentil, et Kiki, il fait un plus peur. Lui aussi, il a des dents carnassières, des yeux. Ça rappelle un peu les gardiens du temple. Ce sont les gardiens de son œuvre, sa factory, la Kaikai Kiki, qui est énorme, hein, qui est beaucoup plus importante. Il y a 170 personnes qui travaillent. Et voilà, donc Monsieur Dobb, on peut pas rater Monsieur Dobb.
Monsieur Dobb est bien sûr une pièce récente, c'est le Japon moderne, c'est le Japon d'un artiste contemporain, Takashi Murakami, pour rappeler une fois de plus son nom. Mais dans cette exposition, comme s'il n'y avait pas de rupture temporelle, on peut se retrouver face à cette œuvre qui date d'il y a presque 200 ans et que tout le monde connaît, c'est-à-dire la vague d'Okusai.
Oui, mais la vague d'Okusai, c'était déjà un tsunami. Donc on voit un tout petit bateau et on voit déjà l'importance que ça avait dans l'œuvre, dans les artistes japonais. Ça les marque tous, à toutes les générations. Et il y a une grande œuvre également dans le musée. Là, on a parlé du cimetière, des fantômes. Mais il y a une grande œuvre d'une artiste de la Kaikai Kiki. Yatakano, qui est le royaume de Mu, le royaume englouti, donc qui est à la fois, c'est à la fois forcément à la suite du traumatisme des tsunamis et en même temps d'une vieille légende d'un royaume, d'ailleurs c'est très intéressant, le royaume englouti, c'est l'Atlantide, c'est Mu au Japon.
Mais là c'est avec des monstres marins.
Hein. Ah oui, il y a des monstres marins, il y a la reine, elle a une grosse méduse énorme sur le haut du crâne, elle est sur un cheval marin imaginaire bien sûr, ils ont tous des gros yeux noirs. Mais il y a également des archéologues qui recherchent le royaume de Mu au Japon. Et récemment, on a découvert un vestige archéologique très étonnant, qui n'est pas du tout de l'architecture japonaise. Donc, c'est à nouveau, c'est un peu comme le Yeti chez nous, le royaume de Mu, est-ce qu'il n'a pas réellement existé?
Alors, ça part d'une culture pop, puisque c'est la culture de la bande dessinée japonaise, des dessins animés japonais, et Pourtant, on arrive à des œuvres d'art, on arrive aussi à des questionnements sur la vie, la nature, les catastrophes, la mort. Tout ça est dans cette exposition Monstre, Manga et Murakami. C'est jusqu'au 22 septembre au Musée en Herbe. Merci beaucoup, Sylvie Girardet, d'être venue nous en parler.
Ben, merci à vous de m'avoir invitée, parce que c'est un vrai plaisir d'en parler. Moi, je suis habitée par cette exposition.
Merci.